Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI pour se parler chaque jour du nord au sud, du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, je reçois 4 femmes de passage en France à l'invitation de l'ONG CCFD Terre Solidaire. 4 femmes qui font partie des très nombreux projets de développement suivis par le CCFD. Elles représentent en majeure partie des organisations rurales dans les pays du sud. Un travail agricole bien souvent harassant, porté par les femmes. Et elles sont venues un peu en porte-parole finalement nous raconter le quotidien d'une région, d'une communauté. Alors à mes côtés, Cynthia Darda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libanaise.
Oui.
Vous appartenez à l'organisation Fairtrade.
Voilà, en fait je suis responsable marketing et communication auprès de l'ONG Fairtrade Lebanon, et notre ONG milite pour le commerce équitable
au Liban.
Au Liban, exactement.
Fatoundia, bonjour.
Bonjour.
Vous arrivez du Mali, vous êtes déjà en France depuis plusieurs jours et vous travaillez depuis 10 ans avec des femmes qui transforment des céréales pour l'ONG Afrique Verte, c'est bien
oui,
ça?
Oui, je travaille avec des femmes transformatrices de céréales locales au niveau de la région de Mopti, au centre du pays.
Fatimatou Diallo, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes guinéenne.
Oui.
En charge du conseil de gestion à la Fédération des paysans du Fouta Djallon. Fouta Djallon, c'est le grenier de la Guinée-Conakry.
Oui.
On peut dire ça comme ça?
On peut le dire comme ça. Au Fouta Djallon, nous avons une association, une organisation paysanne qui couvre aujourd'hui plus de 32 000 membres, dont 64% sont des femmes.
Oui. 64% de femmes qui portent l'agriculture.
Qui se battent nuit et jour.
Et enfin, Florence Neterwa Foura, est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Vous venez de RDC, République démocratique du Congo.
Mais oui, je m'appelle Florence Neterwa Foura, je viens de la RDC, précisément à l'Est, à Bukavu. Je travaille avec la Commission épiscopale pour les ressources naturelles dans l'archidiocèse de Bukavu. Ouais.
Vous êtes juriste, hein, vous, à l'origine. Hein. Et Foura, ça veut dire en swahili?
La joie.
Voilà, bien nommé. Quand les femmes travaillent la terre, quelles difficultés, quelles raisons d'espérer aussi une vie meilleure? L'émission est dédiée à tous les voisins et les voisines qui sont nés au village. Bienvenue. Alors vous êtes rassemblées toutes les quatre par l'ONG CCFD Terre Solidaire. Finalement, qu'est-ce que cela vous apporte de sortir de votre région, de croiser des expériences alors que vous venez de pays, les unes et les autres, extrêmement différents, avec des problématiques différentes? Fatimatou Diallo, par exemple, en Guinée.
Au fait, ça va me permettre d'échanger avec les gens, de savoir comment est-ce qu'ils travaillent. Ça peut nous renforcer davantage dans notre organisation paysanne, sur la manière de faire, d'organisation autour des femmes, surtout, qui m'impressionne beaucoup. C'est un échange. Nous avons beaucoup d'expériences à tirer de l'un de l'autre.
Mais alors, vous communiquez davantage, vous, par exemple, en tant que Guinéenne, avec votre voisine malienne, parce que les problématiques sont un peu similaires, où les femmes portent beaucoup l'agriculture, ou pas forcément?
On peut dire que les femmes ont à peu près les mêmes problématiques. Des femmes qui sont chefs de ménage et qui ne s'occupent que de leurs enfants, à l'absence des maris, qui sont soit à l'extérieur, soit des femmes veuves.
Et pour vous, Fatoundia, au Mali?
Oui, c'est pratiquement la même chose au niveau de mes organisations. Comme l'a dit Fatoumatou, l'éducation des enfants, la santé, l'avignement, sont les femmes qui sont les piliers, comme j'ai l'habitude de le dire, sont les actrices du développement. Donc, c'est elles qui supportent les grosses charges de la famille.
Et pour vous, toujours sur le continent subsaharien, Florence Neterwa Foura, République démocratique du Congo.
Oui, chez nous, les hommes n'abandonnent pas facilement. Ils restent les chefs de ménage. Et les femmes travaillent à côté d'eux. Et vous comprendrez que chez nous, l'économie pèse effectivement sur l'épaule de la femme. Et c'est elle qui doit nourrir la famille. C'est elle qui intervient pour le survie des gens que la famille héberge. mais c'est elle qui ne décide pas sur ce qu'elle produit.
Et pour vous, Cynthia Darda, au Liban, alors, pour
Alors, nous, au Liban, on est dans une société très patriarcale, où c'est l'homme qui doit assurer le rentrée, et c'est la femme qui doit, comme elles le disent, rester à la maison, à faire les ménages. Et à voir que le partage qu'on a eu avec nos collègues ici, c'est sentir qu'on n'est pas seul à se battre dans le monde, que vraiment l'union fait la force, et que la création de ces ONG dans à peu près dans chaque pays dans le monde fait que quelque part on a un soutien, on n'est pas seul à se battre, et c'est motivant, c'est dynamisant.
Votre pays, Cynthia Darda, le Liban, oui. c'est un petit pays. Comment a évolué ces dernières années le travail de la terre?
Malheureusement, il y a des études qui ont été faites qui ont montré que dans les années 90, plus de 50% de la population était rurale. En 2008, il y avait plus que 13% des villages qui étaient habités. En 2013, on n'est plus qu'à 9%.
C'est vraiment une hémorragie, hein, des campagnes.
Exactement. Et c'est une très forte désertification. On voit un très fort exode rural, ce qui fait qu'on a une perte de tout ce qui est activité agricole, on a une perte du savoir-faire, on a de très fortes désertifications. Et c'est face à ces problèmes que l'ONG est en train de... qu'elle veut se battre.
Et alors, autant dire que le Liban n'est pas autosuffisant alimentairement parlant.
Alors non, malheureusement non, parce qu'on a par exemple 53 000 hectares qui sont abandonnés.
Et donc,
qui ne sont pas cultivés.
Sur lesquels il ne se passe plus rien.
Plus rien. Ils sont répertoriés comme abandonnés en 2008. Et donc, si on pouvait, si on avait la possibilité...
53 000 hectares, ils sont essentiellement dans la vallée de la Beka.
Oui, c'est surtout dans la vallée de la Beka parce que c'est notre terre la plus fertile. Parce qu'en fait, la vallée de la Beka est située entre deux chaînes de montagnes. L'eau qui résulte de la fonte des neiges se regroupe surtout au niveau de la vallée de la Beka. Ce qui fait que c'est là-bas où on a nos terres les plus fertiles.
Pourquoi un tel exode en si peu de temps? On ne gagne plus sa vie
parce qu'on ne trouve plus aucun intérêt. Déjà, on n'a pas de soutien auprès du gouvernement. On ne trouve plus aucun intérêt économique de rester dans les villages. D'autre part, les villageois préfèrent faire des études plus poussées et toutes nos plus grandes écoles, universités se trouvent à Beyrouth. Tout est concentré au niveau de Beyrouth. Donc, ils quittent le village pour aller trouver une meilleure vie dans la ville.
Ouais. Fatima Toudialo nous disait tout à l'heure pour la Guinée-Conakry, pour le Fouta Djallon, 64% de femmes dans l'agriculture. Donc l'agriculture est vraiment portée par les femmes. Est-ce que c'est le cas au Liban dans ce qu'il reste de l'agriculture?
Oui, c'est le cas au Liban parce que à cause de la guerre, vous savez, on a eu une guerre de 75 à 90. Tous les hommes sont soit partis à la guerre, donc ce sont surtout des veuves. Et c'est elles qui détiennent le savoir-faire quelque part culinaire et le savoir-faire agricole au Liban. En fait, on travaille avec donc 14 coopératives qui sont majoritairement des femmes. Donc elles occupent plus de 52%. Pour nous, c'est 52%.
Des petites exploitations familiales.
Des petites exploitations familiales.
Donc des femmes qui travaillent leur propre terre.
Exactement. Qui travaillent pour à la base elles produisaient pour donner aux cousins, aux oncles, aux grands-pères, aux petits-fils, mais leur travail n'était pas monétarisé. Et donc grâce à notre travail et l'appui, elles ont une certaine reconnaissance. Quelque part.
Pour vous, au Mali, Fatou Ndiaye ou Fatima Toudialo en Guinée-Conakry, est-ce que c'est la même chose? Les femmes sont propriétaires de leurs terres? Ce sont de petites exploitations familiales ou pas?
Concernant la Guinée-Conakry, au niveau du Fouta Djallon, généralement, nous, la religion, les femmes ne sont pas héritières. Les terres appartiennent à des grandes familles et que ce sont les hommes qui ont droit de partage. Les femmes se battent là à produire sur la terre, mais c'est soit elle emprunte, ou si elle trouve un peu de revenus, elle rachète, ou elle paye en location.
Et pour vous, Fatou Ndiaye, au Mali, c'est la même chose?
Pour nous, au Mali, c'est pratiquement la même chose. Et vous savez qu'au Mali, il y a 80% de la population qui sont des agriculteurs. Donc, les femmes occupent une grande place, d'ailleurs. Et puis, ce sont les hommes qui sont propriétaires de terres. Donc,
et les femmes qui la travaillent.
Oui, les femmes qui la travaillent. Et puis, la femme n'a pas accès sur pour les terres. Donc, quand la femme en a besoin, la femme est obligée de se rallier du côté de son mari ou d'autres personnes pour avoir accès à la terre.
Mais alors, ce sont les femmes qui travaillent la terre, les hommes qui la possèdent. Que font les hommes pendant que les femmes travaillent la terre?
Les hommes sont toujours aux côtés des femmes, mais c'est en général les femmes qui travaillent plus la terre. Même si les hommes travaillent, vous trouverez que les femmes sont toujours à côté des hommes pour les aider à faire l'agriculture. Ouais.
Chez vous, au Mali, tout comme en Guinée-Conakry, vous avez une agriculture qui est relativement peu mécanisée?
Très peu mécanisée d'ailleurs, très peu mécanisée. Les femmes travaillent surtout avec les matériels artisanaux. en général. Donc, sont des anciens, c'est-à-dire
ouais. La roue.
Voilà, la roue, et puis les charrues, etc. Donc, les femmes travaillent avec ces équipements rudimentaires.
Nous, elles travaillent encore d'une façon très naturelle, très artisanale. Donc, par exemple, la production de la confiture d'abricot, elles le font encore à la main. Tout est très naturel. Parce que c'est comme ça qu'elles travaillent. Et un des principes du commerce équitable, c'est de garder les traditions culinaires et le savoir-faire. Et donc, nous, on les encourage à continuer à travailler de cette façon. L'équitable, c'est pas forcément le biologique. Par contre, elles travaillent d'une façon très naturelle. Mais parce que les principes du bio sont différents des principes du commerce équitable. Maintenant, l'idéal, c'est de faire du bio et du commerce équitable. Parce que nous, par exemple, on a des produits transformés. Les graines de ces produits transformés, comme l'huile et le vin, sont certifiés bio. Par contre, tout le processus de transformation n'est pas bio. Ce qui fait qu'on peut pas certifier le produit. Donc, le vin ne peut pas être bio. Mais le raisin est bio.
Alors, quels sont l'essentiel des produits que produit Fairtrade, enfin, que soutient Fairtrade au Liban pour ces coopératives de femmes?
On a d'abord tout ce qui est confiture, abricots, pétales de rose, fraises. On a tout ce qui est distillat, donc l'eau de rose.
Vous allez nous donner faim, là.
Oh, très, c'est très, très bon, en plus. Je vous invite à venir au Liban, soit acheter nos produits et goûter.
On n'arrive pas à porter de peau, là, je suis déçue.
Donc, on a tout ce qui est distillat, donc eau de rose, eau de fleur d'oranger.
Très
on a
présent dans la cuisine orientale.
Très, exactement. On a le vin, on a l'huile d'olive, on a les sirops, on a les épices, les graines, les condiments. On a une variété de 52 produits. Donc, cette gamme est 52 produits.
On va revenir aussi aux céréales. Oui, en Guinée-Conakry.
Par contre, en Guinée-Conakry, les femmes travaillent sur des petites exploitations pour le moment. Mais il y a le potentiel qui existe pour agrandir leur parcelle par manque de moyens. Sinon, rien que dans la région, nous avons près de plus de 40 000 hectares à mettre en valeur.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est énorme. De moins. On va en parler de ce fameux potentiel. Hein, c'est la même chose au Mali, qui n'est pas suffisamment bien exploité.
Oui, pas suffisamment bien exploité. Mais je dirais, avant d'en venir là-bas, je dirais que nous, nos femmes, travaillent sur des produits locaux et qui sont notamment, surtout sur les céréales. Sur les céréales locales qui sont produites au niveau de la région du Mali. Donc, mes femmes font la transformation de ces produits, donc qui sont le mil, le riz, et le blé, le maïs, le fougnon, qui n'est pas du tout connu en France ici. Et vous voyez, donc, elles font la transformation de ces différents produits pour mettre en valeur nos produits.
Vous avez dit mes femmes, Fatou.
Oui.
C'est amusant. Non, mais parce que c'est... Il y a une vraie proximité, en fait.
Oui,
hein,
oui,
ça.
Oui.
C'est vos sœurs, c'est quoi pour
oui,
vous?
Oui, c'est mes sœurs, mes mamans, parce que parmi elles, il y a certaines qui ont l'âge de ma mère, et je travaille avec elles.
Nous allons y revenir à tous ces projets, hein, soutenus par le CCF des Terres Solidaires, des femmes dans l'agriculture, en tout cas en zone rurale. Yeah.
ça c'est un doux mélange programmé par Romain Dubrac, le réalisateur de l'émission. C'est le groupe Danzo Yugu. Florence Fourara de la République démocratique du Congo. Alors vous travaillez pour la commission épiscopale pour les ressources naturelles au sud Kivu, c'est-à-dire que vous êtes basée à Bukavu. Vous êtes juriste à l'origine. Alors comment vous êtes arrivée à travailler avec les femmes dans le sud Kivu qui elles-mêmes exploitent les mines, c'est une région de mines.
Dans tout mon parcours professionnel, je me suis familiarisée avec la femme et avec l'homme, donc avec des communautés. Du coup, je commençais à travailler avec la commission épiscopale pour les ressources naturelles et les problèmes de la femme est encore revenu parce qu'elle est un acteur dans l'exploitation minière au Congo et exploitation artisanale. Elle intervient directement ou indirectement et dans l'exploitation minière. Donc, des fois, elle est elle-même créature artisanale, si je peux le dire. Et des fois, c'est elle qui fait le petit commerce dans les carrés miniers. Et il y a d'autres femmes qui se présentent dans les sites d'exploitation pour la prostitution. Voilà. Au Congo, en général, et au Kivu, les gens vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage. Mais suite à l'instabilité de ménage liée aux insécurités, aux guerres par-ci par-là, les gens fuient de chez eux, abandonnant derrière eux leurs champs et tout ce qu'ils ont investi dans l'agriculture. Et du coup, ils vivent dans deux familles d'accueil où ils ne savent pas recommencer. Soit ce sont des saisons qui viennent de passer, les récoltes avec. Donc, il faut qu'il y ait un moyen qui procure l'argent vite, vite. Et voilà qu'ils se dirigent dans les sites d'exploitation minière. Et là, c'est tout le monde qui y va parce que il faut que les gens survivent.
Donc cet entonnoir où tout le monde se dirige vers les mines, c'est du fait des conflits.
Ben oui, c'est du fait des conflits, effectivement. Parce que s'il n'y avait pas de conflits, les gens réfléchiraient plutôt comment renforcer leur exploitation agricole et comment faire de l'agriculture pour la commercialisation et non seulement l'agriculture pour survivre, l'agriculture pour la consommation familiale. Mais l'instabilité de la région empêche les gens de s'organiser davantage.
Est-ce qu'on peut redire brièvement de quelle mine il s'agit dans cette région-là?
À l'est, au Congo, il y a le mine d'or, il y a le mine de cassiterite, de wolframite et de coltan. Plus au nord, il y a dans la province orientale, il y a le mine de diamants, le mine d'or. Et en fait, il y a beaucoup de minéraux au Congo qui c'est une longue liste.
Est-ce que comparé à l'agriculture, Florence, le travail dans les mines pour les femmes est plus difficilement contrôlable? Elles sont plus vulnérables? Ça fait naître des situations de détresse nouvelles?
Mais oui, la place de la femme n'est pas dans un carré minier parce que elles deviennent tout de suite des esclaves sexuels, si je peux le dire. Du coup, elles se trouvent utilisées par le créseur et vulnérables parce qu'il y a, ce n'est pas un cadre où ses droits sont protégées. Elles sont soumises aux travaux lourds, au même pied d'égalité que les hommes et quelquefois même plus que les hommes.
Pourquoi?
Si elle est en même temps créseur artisanal comme un homme, elle va être en même temps celle qui peine par la prostitution ou par les violences sexuelles.
Mais donc c'est vraiment la double peine.
Mais oui, c'est la double peine pour elle et sa place n'est pas en réalité dans ce site d'exploitation minière. Donc si la situation était un peu plus calme, s'il y avait la paix dans la partie est du Congo, cette femme-là serait au foyer, en train de cultiver, en train de faire l'élevage et en train
dans
de
son
réfléchir
champ, dans son jardin.
Dans son jardin, en train de réfléchir sur l'éducation de ses enfants. Et donc, c'est un facteur déstabilisant l'insécurité.
Alors, vous allez bien sûr, en deuxième partie d'émission, nous expliquer toutes les quatre quel est votre travail sur le terrain pour vous, Florence, auprès de ces femmes qui sont dans une grande situation d'insécurité, de vulnérabilité dans les mines du Congo. Et puis aussi, également, en Guinée-Conakry, au Mali et puis au Liban, pour les femmes qui travaillent plus tranquillement, si on peut dire, la terre. Vous restez avec nous, mesdames. Suite de l'émission, juste après le flash, les femmes dans l'agriculture, dans les zones rurales, 7 milliards de voisins. Retour dans 3 minutes. Restez avec nous, les voisins et les voisines.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens avec Catherine Roland, Frédéric Lebel et Laurent Berthaud.
Aujourd'hui,
l'héroïne, nouveau fléau d'Oslo, c'est en Norvège qu'on recense le plus d'overdoses à cette drogue.
Demain,
à leur tour, de nombreuses familles russes quittent Moscou la frénétique pour commencer une vie plus calme à la campagne.
Accent d'Europe, du lundi au vendredi, à partir de 19h41.
RFI.
l'écoute de RFI, les midi et demi à Paris, 10h30 en temps universel.
Juliette Rangeval.
Et toute l'actualité de ce jeudi 17 juillet 2014. On apprend à l'instant du ministère de la Justice en Israël l'inculpation de 3 extrémistes juifs pour le meurtre d'un jeune palestinien. Par ailleurs, 3 obus de mortier ont été tirés ce matin depuis la bande de Gaza. Ils ont touché le sud d'Israël selon l'armée israélienne. Des tirs malgré la trêve humanitaire. Israël et le Hamas avaient commencé à appliquer ce matin à la demande de l'ONU une trêve de 5 heures pour permettre aux habitants de Gaza de se ravitailler alors qu'ils subissent depuis 10 jours les attaques incessantes de l'aviation israélienne. L'opération israélienne a déjà fait 230 morts et 1700 blessés parmi les Palestiniens, selon les bilans donnés par les secours. Côté israélien, un homme a été tué. L'Afghanistan commence à recompter les bulletins de vote de l'élection présidentielle du mois de juin. Un audit des 8 100 000 suffrages enregistrés au deuxième tour de scrutin afin de départager les candidats Abdullah Abdullah et Ashraf Ghani sur fond d'accusation de fraude. L'opération doit durer 2 à 3 semaines. Les candidats auront ensuite 24 heures pour formuler leurs plaintes qui devront être traitées par la commission des plaintes afghanes. La Russie proteste contre les nouvelles sanctions prises par les États-Unis dans le dossier ukrainien. L'administration Obama a décidé de frapper entre autres 3 grands groupes dirigés par des alliés du Kremlin. Moscou considère ces sanctions comme une revanche américaine face à l'évolution de la situation en Ukraine. Et Vladimir Poutine, le président russe, estime que cela va conduire les relations russo-américaines dans une impasse. Les Européens ont eux aussi adopté hier soir de nouvelles sanctions contre la Russie. Les Européens ont notamment gelé des programmes d'investissement dans le pays. Alors, ce sont des sanctions moins significatives, mais c'est un pas important salué par Kiev alors que les combats se poursuivent dans l'Est ukrainien. L'Ukraine accuse d'ailleurs aujourd'hui l'aviation russe d'avoir abattu un avion de combat ukrainien. C'est ce qu'indique un porte-parole à Kiev. Le président Vladimir Poutine qui dément par ailleurs des informations parues dans la presse russe selon lesquelles Moscou compte rouvrir une station d'écoute à Cuba utilisée pendant la guerre froide pour espionner les États-Unis. Vladimir Poutine était interrogé par un journaliste lors d'une conférence de presse au Brésil et il a catégoriquement démenti ces informations de presse. Attaque particulièrement meurtrière contre l'armée en Tunisie. 14 soldats ont été tués près de la frontière avec l'Algérie sur le mont Chambi. Une attaque imputée par les autorités aux rebelles islamistes liés à Al-Qaïda. Et puis le groupe djihadiste de Mokhtar Belmokhtar revendique auprès d'une agence de presse mauritanienne l'attentat suicide qui a coûté la vie à un soldat français. Un soldat tué lundi dernier, le 14 juillet, dans le nord du Mali. Un petit mot de cyclisme, c'est aujourd'hui le départ de la 12e étape entre Bourg-en-Bresse et Saint-Étienne, 185 km de parcours. RFI 12h33 à Paris.
Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous suivons pour la deuxième partie de l'émission, toujours pas à pas, la difficile vie des femmes dans l'agriculture ou dans les zones rurales, du moins en Guinée-Conakry, au Mali, au Liban et puis en République démocratique du Congo où là, il s'agit surtout du travail dans les mines. Avec 4 femmes venues nous raconter en porte-parole leur projet d'économie solidaire pour permettre aux femmes de ne plus se demander chaque soir ce que l'avenir leur réserve, mais au contraire de construire une relative sécurité, d'envoyer leurs enfants à l'école. Fatimatou Diallo, vous venez de Guinée-Conakry. Fatoun Diaye, vous venez du Mali. Cynthia Darda, vous venez du Liban. Et puis Florence Neterwa-Fora, vous venez de République démocratique du Congo. On parlait avec vous justement, juste avant le flash. Vous nous parliez de cette extrême situation d'insécurité des femmes qui, du fait du conflit à l'est de la RDC, se retrouvent privées de leur terre, privées de leur champ, de leur maraîchage, ne peuvent plus cultiver la terre et donc se retrouvent dans les mines exploitées dans tous les sens du terme pour trouver une paye journalière finalement. C'est ça, c'est qu'il faut trouver de l'argent rapidement.
Oui.
Alors
c'est
comment
ça.
Vous, en tant que juriste, qu'est-ce que vous apportez comme aide? Comment vous travaillez avec ces femmes?
Nos interventions sont multiples. Parce que si on envisage la position de cette femme vis-à-vis de la culture, on voit déjà que la culture elle-même pèse sur ses épaules. C'est la culture qui l'empêche d'être considérée au même pied d'égalité que l'enfant garçon, déjà quand elle est jeune fille. Si on la voit du point de vue économique, c'est elle qui intervient plus. Du point de vue politique, c'est elle qui n'est pas favorisée pour être actrice dans la politique.
Alors
de son
qu'elle
pays.
Ramène parfois autant d'argent au foyer, si
mais
ce
oui,
n'est plus.
Mais oui. Mais parlant de la femme, femmes dont les droits sont violés à la base dans les sites d'exploitation minière, j'interviens pour lui dire qu'elle a des droits et des obligations
et
aussi.
Que peut le droit face à la culture ?
Mais si elle est informée que au-dessus de la coutume, il y a une loi qui a une force beaucoup plus impérative que ce que prévoit la coutume, elle parvient à comprendre petit à petit et elle se défend d'elle-même ou en recourant à des juridictions qui l'aident à aller de l'avant. Par exemple, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles ou d'agressions sexuelles
dans les mines
et partout ailleurs, elles n'étaient pas capables d'aller les signaler à l'autorité compétente. C'était pour elles une façon de s'exposer à toute forme de critique sociale, mais là, la femme est en train de prendre conscience que le coupable du viol doit payer et il y a maintenant des femmes qui dénoncent à vive voix qu'elles ont été victimes de violences sexuelles n'importe où et elles se présentent dans des structures comme le nôtre pour qu'on puisse les orienter et leur prendre en charge. C'est déjà un pas.
Cynthia Darda, alors vous venez du Liban, où vous nous disiez au début d'émission d'ailleurs, société très patriarcale, hein, mais dans un autre sens, probablement les femmes ne vivent pas les mêmes immenses difficultés, quoique, hein, dans la vallée de la Beka, là vous travaillez donc pour du commerce équitable, l'organisation Fairtrade, et donc une production artisanale de femmes dans l'agriculture. Comment faites-vous pour que les femmes gagnent une autonomie? Parce que là l'idée c'est qu'elles obtiennent un revenu. Hein.
Exactement. On les rémunère justement par rapport à leur travail et équitablement par rapport à leur travail. Ce qui fait qu'à la fin de chaque mois, elles gagnent un certain revenu. Parce qu'elles ont un certain revenu, elles ont leur mot à dire quelque part dans la maison. C'est pas seulement l'homme qui gère la maison, d'une part. D'autre part, grâce à notre travail et à l'appui qu'on leur donne, elles ont une certaine autonomie sociale aussi. Parce qu'elles travaillent donc par exemple dans une coopérative où elles élisent une présidente, une trésorière, une secrétaire. Et donc, quelque part, leur travail est indépendant de celui de l'homme. Ensuite, ce sont des femmes qui nous disent, vous réalisez qu'un produit qui est fabriqué au fin fond dans un village méconnu au Liban est vendu dans un des rayons en France. Elles ont quelque part une certaine fierté de leur travail. Et c'est
Parce que votre cible, c'est quand même beaucoup la communauté libanaise, la diaspora.
Exactement.
Alors on est des produits du pays.
Voilà, parce qu'on est 4 millions de Libanais au Liban, mais on est 16 millions à l'étranger. Et c'est une diaspora qui est très demandeuse de produits libanais, qui est très nostalgique et qui recherche des produits de qualité. Et ce ne sont que ces femmes qui savent encore produire d'une façon très artisanale, comme nos grands-mères le faisaient. Ou nos...
Et qui vendent l'eau de rose à New York.
C'est un rêve New York. Mais... Oui, en France, ils vendent l'eau de rose en France, en Allemagne, et voilà, partout en Europe.
Ouais. Ces femmes savent lire et écrire pour la comptabilité, tout ça.
Alors, exactement, c'est des formations aussi qu'on leur fait, des formations de comment compter, comment lire, comment écrire, comment travailler d'une façon plus sanitaire, parce que ce sont des femmes, par exemple, on leur dit pour travailler, vous devez mettre des bonnets, des gants, des blouses blanches, et elles nous disent que
pourquoi,
ça fait 20 ans.
Pourquoi ça, ouais.
Parce que il y a certaines normes d'hygiène et de qualité qui sont imposées par la France qu'on est obligé de respecter.
Pour l'exportation.
Pour l'exportation, exactement. Et elles nous disent, mais nous, ça fait 20 ans qu'on travaille sans pour autant porter toutes ces choses, pourquoi maintenant vous allez nous obliger de changer notre façon de travailler? Nous, on leur dit, on ne change pas votre façon de travailler. On fait en sorte d'améliorer, de la faire plus sanitaire et plus hygiénique pour pouvoir exporter en France.
C'est difficile, ça, de faire évoluer les mentalités sur la façon de travailler.
Au début, c'était très difficile, mais maintenant, comme elles ont remarqué qu'il y a un résultat, quelque part, elles ont accepté et puis c'est fini, c'est devenu une
habitude. Parce que ce sont des techniques ancestrales hein, pour produire de l'eau de rose, des confitures, etc.
Oui. Mais voilà, on leur dit, ne changez pas votre façon de travailler. Par contre, faites-la d'une façon plus hygiénique et plus propre.
Fatou Ndiaye, au Mali, hein, c'est vraiment des femmes qui produisent des céréales.
Oui, elles transforment les céréales telles que le mil, le sorgho, le maïs, le fougno, le blé, le riz. Donc, sont les céréales qu'elles transforment.
Et là, quel est le principal problème dans la transformation et puis ensuite la gestion des stocks, les emballages, etc.?
Bon, elles sont butées à plusieurs contraintes, notamment leur faible accès aux équipements, parce qu'elles n'ont pas des équipements adéquats pour faire une transformation de grande quantité. Et également l'accès au crédit et du point de vue conditionnement, les produits qui sont importés sont mieux présentés que les produits qu'elles font et au niveau du Mali. Donc nous sommes confrontés à ce problème.
Ce qui veut dire que même pour une clientèle à l'intérieur du Mali, elles ont du mal à faire valoir les plus de leurs propres
elles
produits.
Elles ont du mal, elles ont plus tendance à payer les produits importés que de se procurer des produits qu'on produise au niveau du Mali.
Fatimatou Diallo pour la Guinée-Conakry dans le Fouta Djallon.
La Fédération des paysans du Fouta Djallon aide ces femmes
à l'approvisionnement des intrants de qualité. Je veux rappeler que cette organisation paysanne développe la pomme de terre, l'oignon, la tomate, le maïs et le riz. Donc un peu de maraîchage et un peu de céréales. Quand on parle d'intrants, c'est la semence, c'est l'engrais, il y a le petit outillage agricole. Donc les femmes reçoivent tout ça au même pied d'égalité que les hommes.
Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter les intrants, vous faites rien, même avec une terre extraordinaire comme dans le foot à Jalon.
Bien sûr.
Oui, comme au Congo, parce que si on n'a pas l'argent pour acheter tout cet équipement, quand bien même on a une terre très fertile, on ne fait rien.
Oui, bien sûr. Pour avoir ces intrants, au fait, nous avons l'appui de différents bailleurs, notamment le CCFD. Nous avons eu tout récemment un gros projet Résanor, qui était axé sur 3 préfectures, qui étaient Gawal, Kundara et Mali, qui nous ont financé un montant de plus de 4 millions d'euros. C'est l'Union européenne qui avait financé ce projet. Le CCFD était porteur de ce projet et a financé à hauteur de 10%. Donc, c'était l'approvisionnement en intrants de qualité, l'achat de petits matériels agricoles, des aménagements de bas-fonds pour faciliter à ces femmes le travail un peu à l'intérieur. Mmh. D'où l'un des critères de ces aménagements de bas-fonds, c'était dans les groupements ou dans les bas-fonds où il y a plus de femmes. Il y a aussi les formations qui sont faites là, notamment sur la maîtrise technique, les différentes étapes sur la préparation du sol, sur l'entretien des cultures, sur la récolte, la commercialisation, voire la conservation des produits.
Est-ce que ça, c'est un vrai problème, la maîtrise technique pour les femmes, qui finalement travaillent très dur pour un résultat souvent maigre?
Oui, c'est très utile. Par exemple, rien que sur la pomme de terre, nous sommes passés de 7 tonnes hectares à 20, voire 25 tonnes en moyenne. Donc tout ça, c'est la maîtrise technique qui a permis à ces femmes d'avoir cela. Quelques-unes d'entre elles ont une autonomie financière, notamment la scolarisation de leurs enfants, les soins, et que ces femmes ont réussi à mettre en place une mutuelle de santé sur place pour les petits soins de leurs enfants.
Est-ce que pour passer de 7 tonnes à 20 tonnes à l'hectare de pommes de terre, il faut pour ces femmes maîtriser un minimum la lecture, l'écriture, ou pas forcément, justement, avec le travail que vous faites?
En fait, ça fait partie. Pour que ces femmes émergent, qu'elles deviennent des leaderships, la prise en parole, par exemple, devant le public, et que ces femmes arrivent maintenant à détenir aussi des cahiers, des PV de réunion, ça a permis à ces femmes non seulement de lire et écrire et de pouvoir calculer
De compter, oui.
Parce qu'il y a le conseil de gestion à côté qui leur permet de savoir combien est-ce qu'ils ont dépensé, quelle est la différence entre les produits et les charges, pour en savoir le reste, est-ce qu'ils ont gagné ou est-ce qu'ils ont perdu.
Fatoum
la formation
Diaye,
les a permis à savoir tout ça. Donc c'est tout un paquet d'accompagnement que ces femmes reçoivent.
Moi, j'aborde dans ce même cadre, au niveau de nos femmes.
Au Mali.
Au Mali. C'est pour leur permettre vraiment d'aller de l'avant et de persévérer dans leurs activités.
Ouais. Et en plus de cela, ce que je peux rajouter, si vous voulez, il y a des visites d'échange, et notamment à l'extérieur du pays, voire en France et puis au Canada.
Que disent les hommes quand ils constatent toute l'aide qui est apportée à ces femmes dans vos différents pays?
Quelque part, ça peut être un soulagement. Par exemple, chez nous, il y a la polygamie. Tu peux retrouver 3 à 4 femmes pour un seul homme qui ne peut pas, s'il a 10 à 15 enfants, à nourrir et à amener à l'hôpital, c'est très limite.
Donc tout le monde y trouve son compte.
Chacun.
Dans le foot à Jalon.
Au fait, à ce niveau, oui.
Pour vous, au Mali?
Oui, c'est vrai. Bon, nous avons pratiquement les mêmes problèmes parce que, comme je l'ai dit, les femmes sont les actrices. Les principales actrices dans la gestion au niveau de la famille, c'est elles qui s'occupent de l'éducation de l'enfant, de l'habillement, de la nourriture. Donc, je pense que...
Donc, c'est toute la communauté, finalement, qui en bénéficie. Hein,
dans la famille.
Pour vous, au Liban, Cynthia Darda,
nous, dans la vallée de la Béka. Parce que l'homme est toujours dans le champ à travailler, à faire la récolte, et la femme, son rôle est toujours là à faire la transformation. Donc, elle n'est pas en train de prendre le dessus sur l'homme. Chacun a toujours son rôle à jouer. Par contre, elle est plus... son travail est mieux reconnu. Et l'homme n'a aucun problème. Au contraire, il est plus satisfait parce qu'on a déjà 2 revenus à la maison au lieu d'avoir 1. Et bon, ça se passe très bien pour l'instant.
On va y revenir. Hein, de vos résultats concrets lorsque vous travaillez avec ces communautés de femmes rurales. Et puis aussi un peu sur vos parcours respectifs dans quelques instants. Yeah.
Layori Circle chez 7 milliards de voisins. Nous sommes en compagnie de quatre femmes qui nous parlent du travail des communautés de femmes rurales dans leurs pays respectifs. Toutes les quatre, qu'il s'agisse de Cynthia Darda au Liban, Fatimatou Diallo pour la Guinée-Conakry, Florence Netawa Fura pour la République démocratique du Congo et puis Fatou Ndiaye pour le Mali. Que font, là on a beaucoup parlé de l'appui que vous fournissent les ONG, des bailleurs de fonds, l'Union Européenne, etc. Mais que font dans vos pays respectifs, dans le fond, les gouvernements? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un engagement fort des gouvernements pour justement aider les femmes dans l'agriculture dans vos pays respectifs, Cynthia Darda au Liban?
Alors nous au Liban déjà, on n'a aucun appui du gouvernement. On est dans une société très bureaucratique, avec, il y a beaucoup de paperasse. Donc lorsqu'on veut enregistrer par exemple une coopérative, il nous facilite l'enregistrement de la coopérative auprès de l'administration. Mais sinon, aucun appui du gouvernement, il n'y a aucune politique agricole qui soutienne des ONG.
Et en plus, malgré ces dizaines de milliers d'hectares dont vous nous parliez au début de l'émission, en déshérence, qui ne sont plus cultivés.
Oui, parce que, vous savez, il y a tellement d'autres problèmes au Liban et tout ce qui se passe au Proche-Orient qu'ils ont d'autres priorités.
Fatou Ndiaye au Mali? Bon, là aussi, il y a d'autres priorités en ce moment. Néanmoins, la vie continue, hein, et il faut bien faire bouillir la marmite.
Oui, la vie continue. Bon, et nous n'avons pas cette politique actuellement au Mali, une politique qui soutient les femmes dans l'agriculture.
Est-ce qu'il y avait par le passé, avant le conflit?
Non, il n'y avait pas. Il y avait
c'était
pas
toujours des associations, des ONG,
des
etc.
Des associations qui sont encadrées par les ONG, les projets au niveau du Mali.
Ça vous faciliterait les choses et les projets s'il y avait aussi le gouvernement à vos côtés?
Ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de créer une coopérative fêtière, par exemple. Donc, c'est une coopérative qui va regrouper toutes les coopératives avec lesquelles on travaille. Donc, il va y avoir un ou deux représentants de chacune de nos coopératives. Le gouvernement va nous aider dans le sens où il va nous aider dans la création de cette coopérative au niveau administratif. Mais financièrement, on n'a aucun appui pour l'instant.
Pour la Guinée-Conakry, Fatimatou?
Oui, c'est pareil financièrement, il n'y a pas une ligne spécifique pour ces femmes. Sauf que au niveau de l'organisation, d'une manière générale, il nous facilite beaucoup de choses. Par exemple, s'il y a besoin de construire des magasins de stockage, c'est les autorités locales sont là, ce sont eux qui acceptent que les papiers se font.
Vous parliez du stockage. Le stockage, c'est un vrai problème dans la production de denrées alimentaires, hein, dans l'agriculture, parce que il y a un gaspillage, un nombre de pertes agricoles dans les pays d'Afrique subsaharienne qui est considérable.
Hein. Oui, surtout dans notre cas. parlant de la pomme de terre, qui est un produit périssable. Donc, la construction des magasins, dont même le CCFD en a fait plusieurs, c'est un avantage pour les producteurs, non seulement pour le stockage de la production et non seulement pour la vente. Ça permet de gérer le marché, ça constitue des points de collecte où les gens peuvent se retrouver et que par rapport à ça, nous avons eu l'avantage de la construction d'une chambre froide à travers la Banque mondiale. Une chambre froide qui a une capacité de 1500 tonnes qui va être normalement inaugurée au début de ce mois d'avril.
À ce moment-là, quand vous avez de bons moyens de stockage, vous arrivez à diminuer de combien les pertes?
Je veux prendre un exemple. En 2007, plus de 4 milliards de francs guinéens, les pertes que cette organisation avait enregistrées. S'il n'y a pas moyen de stocker, s'il n'y a pas une chambre froide, ça limite les choses. Tu es obligé de vendre au prix du marché, de vendre n'importe comment pour t'en débarrasser. Le rendement est à meilleur, mais que si tu ne commercialises pas aussi, c'est pas l'avantage du producteur ou de la productrice.
Pour les céréales, c'est quand même un peu moins difficile que pour le maraîchage.
Bon, d'ailleurs, pour nous, ça ne pose pas de problème parce que les femmes achètent et stockent. Et d'ailleurs, un des principes d'Afrique verte, c'est de développer des bourses céréalières. Donc, pour permettre à ces producteurs d'avoir des débouchés.
Sur les appuis des gouvernements ou des régions localement, je vous ai pas encore donné la parole, Florence Sénétaire-Héroy-Fura. Alors vous êtes juriste, vous aidez les femmes, vous faites du conseil juridique et vous recensez les violences, les non-respects des droits des femmes qui travaillent dans les mines dans le sud Kivu. Donc là, on n'est pas sur une situation agricole, ce sont des femmes qui travaillaient la terre auparavant et puis qui ont été amenées à cause du conflit à se retrouver à travailler dans les mines, ce qui n'était pas du tout prévu au départ et ce qui n'était pas dans l'ordre naturel des choses, que ces femmes se retrouvent.
Celles qui font les deux.
Elles font les deux?
Il y a celles qui font les deux.
Ah oui, certaines d'entre elles continuent à travailler aussi un peu la terre.
Oui.
Mais alors, de quelle façon vous êtes appuyée localement, en dehors des associations, des ONG, etc. De quelle façon vous êtes appuyée par les autorités locales?
Le gouvernement travaille en collaboration avec d'autres organisations dans les missions de qualification des sites, c'est-à-dire voir si un site peut être classé en rouge, en vert ou en jaune, ça dépend de la présence des acteurs non éligibles, tels que les enfants, les femmes, les bandes armées, ainsi de suite.
Alors, un site classé rouge, c'est quoi?
La présence des enfants dans un site d'exploitation minière fait déjà que ce site-là soit classé en rouge, c'est-à-dire que les minéraux qui peuvent provenir de ces sites-là ne peuvent pas entrer dans le circuit de commercialisation. Il en va de même pour la présence de femmes soumises aux travaux lourds. Il en va de même pour la présence des bandes armées.
Et c'est respecté, ça, quand un produit sort de la mine qui a été travaillé par des enfants, par des femmes, par des bandes armées, dans les pires conditions, qu'on ne le commercialise pas, en principe, est-ce que c'est respecté?
Pour le moment, c'est un désordre, au fait. Parce que vous savez que chez nous, les conflits sont aussi liés à la présence des ressources naturelles et que, du coup, on trouve toutes catégories de personnes confondues dans les sites d'exploitation, dont les femmes, les enfants, les militaires, ça dépend de l'endroit où on se trouve. On peut pas dire que voilà, tel endroit, les sites sont vraiment propres, tel endroit, les sites sont impropres, mais encore que les sites qui sont propres aujourd'hui vont devenir certainement peut-être impropres demain suite à l'instabilité, à la guerre, et voilà.
Une grande précarité donc, pour ces sites qui peuvent évoluer d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre.
Oui, il y a quand même des travaux sur l'assainissement des sites qui sont entrepris, des travaux qui peuvent être prometteurs si il y a pacification de la partie est, parce que rien ne peut être fait dans une situation de guerre, Mais dans le cas contraire, quand bien même on tenterait d'assainir les sites d'exploitation minière, il est très difficile de mener un contrôle impeccable sur la provenance des ressources naturelles dans une situation d'instabilité.
Quand je vous entends toutes les quatre, Cynthia Darda, Fatimatou Diallo, Fatou Ndiaye, Florence Ntereoa Fura, vous avez l'air évidemment passionnée par ce que vous faites. C'est un travail qui est long, qui est difficile. Les résultats souvent se font attendre. Alors qu'est-ce qui continue de vous faire courir les unes et les autres pour ce que vous avez choisi de faire par rapport à vos parcours respectifs, peut-être, je ne sais pas, Fatimatou Diallo en Guinée-Conakry?
Au fait, c'est un métier qui me passionne. Je fais des formations, je suis tout le temps avec les producteurs à la base. Je ne suis pas agronome de base, je l'ai appris lorsque j'étais recrutée au niveau de cette organisation paysanne. J'ai fait une formation de comptabilité informatique de niveau brevet. Donc c'est au niveau de cette organisation paysanne que j'ai eu la notion, la base de l'agronomie, qui m'a beaucoup impressionnée. Au fait, j'ai la passion de le faire. Je partage tout avec les producteurs à la base. À part ces animations, nous sommes socialement très liés.
Et vous, Fatou Ndiaye, au Mali?
Bon, moi, je dirais que ça a toujours été un plaisir pour moi de travailler avec les femmes pour les faire avancer et à aller de l'avant.
Vous avez travaillé la terre autrefois dans votre famille?
Non, j'ai pas travaillé la terre. Moi, je suis forestière de formation. À ce moment-là, c'était pour faire le concours d'entrée à la fonction publique que je ne l'ai pas eu. Moi, je me suis investie dans le monde rural. J'ai toujours travaillé avec les femmes dans le domaine du maraîchage, de l'épargne, de l'eau et l'assainissement pour la gestion des points d'eau. Et maintenant, je me retrouve avec les femmes transformatrices. Tout ça, c'est dans le but de faire la promotion de la femme. C'est ça, mon ambition.
Et si vous aviez un message à faire passer pour les jeunes, difficile aujourd'hui de les persuader de rester près de la terre.
Oui, je dirais aux jeunes qui vont à l'exode, vraiment, ça ne vaut pas le coup d'aller à l'exode parce que mieux vaut rester au niveau des terres de culture, faire l'agriculture qui est très prometteuse.
On en reparlera quand le Mali sera en paix. Hein. Vous reviendrez nous en parler
bientôt,
bien sûr.
Bientôt, le Mali sera en paix. Soyez-en rassurés.
Florence, en République démocratique du Congo, vous, qu'est-ce qui vous fait courir?
Ce qui me fait courir, c'est l'espoir du lendemain. Et c'est le fait pour moi d'être en contact toujours avec ces femmes congolaises qui luttent pour montrer à d'autres femmes que demain peut être meilleur pour elles. En échangeant des expériences, en leur apprenant des méthodes nouvelles d'agriculture, en leur donnant espoir aux femmes qui ont connu des difficultés comme des violences, et en apprenant à d'autres leurs droits et leurs obligations et dans toute forme d'exploitation agricole, minière.
Et que l'histoire ne se répète pas indéfiniment. Et Cynthia Darda au Liban. Voilà.
Moi, c'est de voir que grâce à notre action, on est en train de militer pour le développement de notre pays et le développement des régions rurales et de sentir que quelque part, grâce à nous, on est en train de donner à ces femmes une raison de rester dans les villages, de ne pas vendre leurs terres. Parce que quelque part, c'est elles qui sont la sagesse. Quand on leur parle, on sent que c'est elles qui détiennent toute la sagesse du Liban.
Une âme du Liban.
Une âme du Liban.
Qu'on a tendance à oublier. Le Liban, ça n'est pas que Beyrouth.
Exactement.
Merci à toutes les quatre. Fatimatou Diallo pour la Guinée-Conakry, la Fédération des Paysans du Fouta Djallon, Fatou Ndiaye pour le Mali, Afrique Verte, Florence Ntererwa Fura en République démocratique du Congo pour la Commission épiscopale pour les ressources naturelles et puis Cynthia Darda pour Fairtrade Liban. Et demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des petits-enfants surdoués. Ils ont entre 6 mois et 6 ans et déjà les parents, l'entourage ont le sentiment qu'ils ne sont pas comme les autres. Alors comment les reconnaître et surtout comment les éduquer? Vous nous appelez pour demain.